Bien, alors donc je voudrais commencer en introduction, mais très rapidement parce que la photo est assez insoutenable, pour vous rappeler d'où l'on vient, hein, avec les famines coloniales de la fin du 19e siècle notamment, et où est-ce qu'on est arrivé, hein, où est-ce qu'on est arrivé? Les années d'abondance au moins, comme en 2001, l'État en est à stocker en plein air, étant donné que les entrepôts débordent. Du riz dans le sud, du blé et du riz dans le nord, ce qui montre un changement complet de situation agricole, voire même alimentaire. Ça peut se montrer en bon géographe par quelques cartes. Vous n'y voyez rien, mais c'est normal, ça ressemble un petit peu aux cartes de terrier, finalement. Je vous montre juste la situation de 1960. Regardez plutôt pour le blé, c'est-à-dire à gauche. Dans le fouillis de flèches, vous distinguez assez bien, je pense, ce qui concerne dans les mers, là, c'est dessiné les importations qui sont très importantes. Et puis vous voyez qu'à partir des ports, Bombay à l'ouest, Calcutta à l'est, Madras même aussi, eh bien, à partir des ports, on nourrit l'Inde. C'est-à-dire que l'Inde est vraiment sous perfusion d'importations, avant tout de blé américain à l'époque. Pour le riz, c'est un peu plus compliqué. Et puis 40 ans plus tard, en 2000-2001, c'est toujours le même fouillis, mais vous sentez bien que ça a changé complètement de direction. D'une part, là, on n'a plus d'importations, mais on a des exportations. Et vous voyez que ce ne sont plus les ports qui nourrissent l'Inde, mais c'est plutôt pour le blé, à gauche, le nord de l'Inde, c'est-à-dire le Punjab avant tout, l'État du Punjab et de l'Haryana. Pour le riz, vous voyez que c'est un peu plus compliqué. Il y a aussi le Punjab, encore le Punjab, mais il y a aussi un pôle au sud, l'État qui s'appelle l'Andhra Pradesh, peu importe. Donc vous voyez un changement complet des flux qui illustre bien, je trouve, eh bien, les succès de ce qu'on appelle la Révolution verte et des suites de la Révolution verte avec l'acquisition de l'autosuffisance céréalière. Au moins pour les grains, blé et riz, et donc une certaine souveraineté alimentaire pour voir les choses dans un sens plus politique. Bien, alors dans la première partie, je vais la sauter complètement. D'habitude, là, c'est un PowerPoint qui dure 3 heures, donc je sens confusément qu'il va falloir que je saute quelques diapos. Donc, je vais pas passer, je saute la fragile situation nutritionnelle. De toute façon, je pense que vous devinez qu'elle est extrêmement fragile. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est que autant on a cette autosuffisance céréalière à l'échelle nationale, autant on est bien loin d'une sécurité alimentaire à l'échelle locale et notamment à l'échelle des individus. Hein, c'est-à-dire que l'Inde peut exporter du grain dans la plupart des années, mais quand on descend au niveau des régions, on a des villages qui sont très déficitaires. Quand on va dans un village excédentaire, eh bien, il y a des familles qui sont en situation d'insécurité alimentaire. Quand on voit un ménage qui semble riche, eh bien, on s'aperçoit que la femme, par exemple, ou certains enfants, notamment les filles, sont mal nourris, etc., etc. Donc, on est très loin d'une situation de sécurité alimentaire au sens fort du terme. Et puis, ce qui est remarquable aussi, j'en dis quand même un mot, c'est le fait que la théorie de la transition alimentaire, c'est-à-dire le fait qu'avec le développement, les gens consomment de plus en plus de calories et notamment de plus en plus de viande, de fruits et de légumes, eh bien, ça ne marche pas en Inde. C'est-à-dire qu'avec le développement, la population mange moins de céréales, c'est vrai, mais ne compense pas de façon proportionnelle avec de la viande, des produits laitiers, des fruits et légumes, etc. Ce qui fait qu'au total, la ration calorique moyenne diminue. Et je crois que c'est assez unique au monde, sauf que ça vaut pour presque un sixième de la population mondiale. Donc c'est une exception de taille qui met à mal une théorie pourtant validée dans la plupart des autres pays. Alors la raison, bah, on s'interroge, hein, il n'y a pas de raison très simple. Je crois que la principale quand même, c'est les aspects culturels et notamment la place du végétarisme dans la population. Végétarisme qui est culturel, je l'ai dit, parce que la nourriture végétarienne, eh bien, elle a plus de statut, plus de valeur que la nourriture carnée. Et puis aussi, accessoirement, il y a des raisons économiques, hein. La viande, ça coûte très cher. Donc, même si on n'est pas de haute caste, eh bien, on ne mangera pas de viande, ou très rarement. Bien, donc je balaye tout ça, je n'en parle plus, et si vous avez des questions ensuite, on y reviendra. Ce que je vais faire, c'est juste parcourir pour le reste du temps la filière alimentaire, si vous voulez, depuis la production jusqu'à la consommation, en insistant sur le rôle de la machinerie publique organisée par l'État pour transporter, voire subventionner. Des produits alimentaires pour les populations, notamment les plus pauvres. Alors voyons d'abord les questions de terre, le support de cette production agricole. Bon, petit rappel sur les disparités agroclimatiques, avec en noir les zones très arrosées par la mousson. Je passe là-dessus pour des raisons de temps. Je vous montre juste une petite photo exotique pour vous montrer. Alors, une photo banale, hein, le quotidien de la saison des pluies dans beaucoup de régions en Inde. Mais ce que j'aime bien, c'est ça. Vous voyez le type là? Il est comme ça, là, il se balade tranquille en revenant de faire ses courses. C'est vous montrer que la pluie en Inde a une autre valeur qu'en Normandie, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec le sujet, je l'admets tout à fait. Cette carte-là, elle est intéressante parce qu'elle vous montre d'une part les très fortes densités de population rurale. Hein. Le gros de l'Inde, là en gris, c'est 150 habitants au kilomètre carré, en zone rurale, en excluant les villes. Donc des densités considérables. On est dans un milieu à peu près sahélien et il y a des densités trois fois supérieures à celles des pays sahéliens. Et puis l'autre intérêt de cette carte, c'est que vous voyez peut-être que ça ne correspond pas aux données climatiques que j'ai montrées tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a de très fortes densités de population dans des zones très peu arrosées, notamment l'amont de la plaine du Gange, là, tout à fait au nord-ouest, et ça correspond bien sûr à l'irrigation, notamment du Pendjab. Une donnée cruciale en Inde, c'est le fait que c'est une fédération. L'Inde est une union, l'Union indienne, c'est son nom officiel. Et donc, de même que Bruxelles publie des directives que les États de l'Union européenne sont censés mettre en législation, de même New Delhi, la capitale, eh bien, produit des lois que ensuite chaque État doit plus ou moins suivre étroitement. Et selon la Constitution, du point de vue agricole, du point de vue rural, eh bien, les États ont toute compétence. Hein. Le New Delhi a vraiment très peu de poids. Ça vous explique que malgré les très fortes nuances à ajouter tout de suite, parce que les États sont relativement pauvres et ils dépendent souvent de la manne fédérale, donc ils ne sont pas si indépendants que cela, loin de là, ça vous explique que les questions agraires et rurales, elles doivent être prises vraiment au cas par cas, chaque État ayant ses politiques, les prix agricoles, les prix des engrais, les subventions, les législations variant souvent beaucoup selon les États, ce qui rend la situation aussi assez compliquée. Donc, du point de vue de la terre, eh bien, ces États, ce sont eux qui ont mené ou n'ont pas mené les fameuses réformes agraires des années 1947-48, juste à l'indépendance, jusqu'aux années 60 et voire même 70. Donc, vous avez des États où il y a eu des redistributions, dans d'autres très peu. Mais de toute façon, quand vous savez que la taille moyenne des exploitations agricoles, c'est un hectare. Vous comprenez que même s'il y a des hiérarchies, des inégalités, même s'il y a des grands propriétaires en Inde encore, en imaginant qu'on ait une répartition complètement égalitaire de la terre, ça voudrait dire qu'on aurait un hectare par agriculteur, ce qui, sans irrigation, ne donne pas des exploitations viables. Donc, si vous voulez, c'est pas faire montre d'un esprit réactionnaire fou que de dire que ce n'est pas de la réforme agraire que viendra le salut des campagnes. Surtout que là, je vous dis un hectare en moyenne pour ceux qui ont de la terre. Mais à cela s'ajoutent tous les prolétaires agricoles qui s'engagent comme ouvriers agricoles et qui n'ont absolument aucune terre, ce qui ferait à peu près dans les 15-20% des agriculteurs. Alors ça, c'est une donnée extrêmement importante quand on évoque les campagnes, parce que de quoi peuvent vivre ces agriculteurs, disons, de quoi peuvent vivre les ruraux quand ils n'ont pas de terre. Je vous rappelle quelques chiffres. À peu près 70% des Indiens sont des ruraux. Mais à peu près 75% de ces ruraux sont agriculteurs. C'est-à-dire qu'il y a très peu de diversification économique. C'est-à-dire que hors l'agriculture, hors la terre, eh bien, il n'y a pas encore beaucoup de salut pour les campagnes. Et c'est pourquoi il faudrait encourager au maximum la diversification économique de ces campagnes pour avoir un semblant de développement rural. Bien, voilà ce que je voulais dire sur la terre. Hein. Je terminerai cette première partie en disant que globalement, le modèle moyen de l'exploitation type, hein, c'est un modèle bah, français, j'allais dire. Hein. En tout cas, ce n'est pas du tout le modèle de l'Afrique subsaharienne. On a bah, une exploitation agricole tenue par un couple avec le pater familias, le mari en général tout puissant, et puis une unité de production donc très simple qui correspond à l'unité de consommation également, et puis la terre qui est en propriété privée avant tout, qui se transmet par héritage, pas de droit d'aînesse, mais le droit d'héritage réservé aux garçons. Ce qui n'empêche pas évidemment un émiettement assez considérable avec la croissance démographique. Bien, donc maintenant, une fois vu le support, voyons la production elle-même et en centrant sur la politique agricole. Alors vous allez voir pourquoi j'ai mis ce sous-titre, la concentration ou diffusion dans une diapositive. Ces politiques agricoles, elles sont relativement faciles à résumer ou du moins à caricaturer. Pour aller vite, jusqu'à la Révolution verte, hein, c'est-à-dire jusqu'au milieu des années 60, l'État fédéral hésite dans ce qu'on appelle le dilemme alimentaire, c'est-à-dire est-ce qu'il faut favoriser la production nationale, les agriculteurs, quitte à ce que les consommateurs, et notamment les consommateurs urbains, eh bien, n'aient accès qu'à une alimentation chère, en soutenant les prix agricoles, ou bien est-ce qu'il faut choisir ce qui est peut-être le court terme, la facilité, en comptant sur des importations qui seront peut-être meilleur marché que la production locale. Les consommateurs, notamment les citadins, sont satisfaits, mais évidemment, ça concurrence la production nationale. Et donc, c'est toute l'agriculture qui risque à terme d'être sacrifiée. Pour caricaturer aussi, c'est ce dernier choix qu'ont fait la plupart des pays africains. L'Inde, surtout à partir de 1956, eh bien, choisit aussi ce choix et va dépendre, on l'a vu dans la carte, avant tout des importations de blé américaines qui sont souvent sous des formes d'aide au développement, enfin d'aide alimentaire. Alors cela dit, là je vous ai résumé sur ce tableau. Je n'ai pas peur, 60 ans de politique agricole que j'ai résumé sous deux colonnes, concentration ou uniformisation. En effet, ça vaut pour la politique agricole indienne, mais ça vaudrait aussi pour la politique industrielle française, ou que sais-je, hein, ou pour la politique de santé, ou n'importe. On peut voir les politiques, je pense, sous ce double angle. À gauche, c'est la colonne concentration. Au nom de l'efficacité, on va concentrer les investissements au profit de certains espaces, au profit de certains groupes sociaux, sur certains secteurs. Et puis, colonne de droite, là, c'est l'uniformisation au nom de l'équité, au nom de la justice. Et donc, on va essayer de diffuser les investissements et les succès. Pour caricaturer, vous voyez, la colonne de gauche, ce serait une politique de droite, et puis la colonne de droite, ce serait une politique de gauche. J'ai essayé de les renverser, mais ça ne marche pas parce qu'on lit de gauche à droite en français et ça ne marchait pas. Alors, je n'ai pas le temps de tout commenter, hein, mais vous voyez que l'Inde indépendante, alors à partir de 1947 officiellement, hein, mais j'ai mis 42 pour d'autres raisons, commence sous le signe des réformes agraires, de l'intervention de l'État, et puis ce qui n'empêche pas les importations, comme on l'a dit, à partir surtout de 1956. Et puis, au milieu des années 60, eh bien, on bascule avec la Révolution verte dans une concentration des investissements, étant donné qu'on frôle la famine en fait après 64, en 65 et 66, et que ça convainc le gouvernement, le Premier ministre Nehru étant de plus mort, il y a un changement de personnel politique, ça convainc le gouvernement qu'il faut changer de politique. Et donc là, on va compter désormais sur ses propres forces. On profite de semences améliorées, diffusées gratuitement par les tout jeunes instituts de recherche agronomique internationaux pour faire ces investissements qui vont être extrêmement efficaces, tout à fait comme à la même époque exactement la politique agricole commune. En fait, l'Inde fait sa PAC avec la révolution verte, et vous avez et vraiment beaucoup de points communs, tant dans les modalités, dans les résultats, autosuffisance céréalière en moins de 2 décennies, tout comme les effets pervers et les critiques qu'on en a aujourd'hui. Alors, je ne reviendrai plus sur le tableau, mais vous voyez que ensuite, on rebascule vers la droite, mais sans que ce soit contradictoire, hein, c'est-à-dire qu'on continue de mener la révolution verte, mais il y a des politiques plus égalitaristes qui vont essayer de sortir du choix blé-riz, de sortir de la concentration en faveur du Pendjab, et aussi de diffuser socialement les progrès avec différents programmes publics. Et puis, surtout à partir de 1991, quand l'Inde signe un programme d'ajustement structurel avec le FMI et la Banque mondiale, la libéralisation fait basculer la politique dans l'autre colonne, avec eh bien, une libéralisation globale du système, mais extrêmement lente, extrêmement progressive. L'Inde aime à se présenter comme un éléphant, et un éléphant, ça avance droit, mais lentement, hein. Donc, n'attendez pas de l'Inde qu'il y ait des à-coups, qu'il y ait des révolutions comme en Chine. C'est quelque chose de beaucoup plus régulier. Bien, alors les succès, ben, on les connaît. Vous avez en pointillé, en gras, c'est la courbe de la population entre 1950 et aujourd'hui. Et puis, les histogrammes, les rectangles allongés, c'est la production agricole. Et vous voyez que cette production agricole, elle augmente considérablement et elle dépasse, du moins selon le graphique, la courbe de la population. Tout ça se fait pas tellement grâce à des défrichements, mais surtout grâce à la hausse de la productivité par hectare, la hausse des rendements par hectare. Et vous voyez que c'est très net pour le blé. Le blé, c'est la courbe noire. Vous voyez qu'il y a vraiment une révolution verte à partir de 1965 et une très forte croissance du blé. Pour le riz, vous voyez que c'est beaucoup moins net. Le riz était déjà en croissance dans les années 50-60. Et pour le riz, c'est plus une évolution verte qu'une révolution verte. Je vous rappelle la fameuse formule de Bergson. C'est tout ce que je me rappelle de Bergson. Une évolution, c'est une révolution qui n'en a pas l'air. R avec la lettre R. Bergson était un petit rigolo. Et vous voyez aussi que, par contre, les protéagineux, c'est-à-dire tout ce qui est lentilles, haricots, nourriture très importante pour les Indiens, ne connaît pas ou quasiment pas de progrès quant à la productivité agricole. Donc on a vraiment des succès, c'est vrai, mais très sélectifs selon les cultures. On est dans cette optique révolution verte égale choix dans les investissements. Il y a seulement certaines cultures qui ont été ciblées. Bien, ensuite, bon, les piliers de la révolution verte, c'est très connu, je vais très vite là-dessus. D'une part, donc, ces semences qui sont d'abord importées et puis ensuite qui sont acculturées, croisées avec des variétés locales, et qui, pour le blé d'abord et pour le riz ensuite, vont se répandre comme une traînée de poudre. Et puis désormais, on en est à avoir des semences à haut rendement pour les fameux protéagineux, pour des céréales plus frustes. Le deuxième pilier, c'est l'irrigation. Pas tellement ces fameux canaux, ces fameux grands périmètres irrigués qui sont construits dès la fin de l'époque coloniale, au XIXe siècle, et avant tout dans la plaine du Gange, hein, que vous avez au nord du pays. Parce que bon, c'est une politique qui était donc ancienne et qui va être poursuivie encore même jusqu'à aujourd'hui dans une certaine mesure. La révolution verte, ce n'est pas tellement la révolution de ces canaux publics, c'est plutôt la révolution des forages, c'est-à-dire des puits privés, individuels, qu'on va construire avec des profondeurs de plus en plus importantes à mesure que les progrès techniques vont faire passer notamment à des pompes électriques submersibles. Donc ça, c'est vraiment crucial et vous avez des programmes de crédit qui accompagnent, qui favorisent les forages individuels, au risque même d'ailleurs de délaisser l'entretien des périmètres publics. Et puis enfin, le troisième pilier, ce sont les engrais chimiques. Voilà ici une publicité pour des engrais pour l'urée et des engrais NPK. Vous voyez, en gros, ça dit si vous voulez un couple heureux, mettez plein d'engrais. Entre parenthèses, vous voyez la diversité culturelle de l'Inde. Hein. Ici, on a une publicité en langue Kannada, la langue officielle du Karnataka, en alphabet Kannada, qui n'a rien à voir avec l'alphabet tamoul, ni avec l'alphabet hindi. Il y a 17 alphabets sur un billet de banque. Hein. C'est compliqué, l'Inde. Bien, la résultante de tout cela, eh bien, c'est que malgré le basculement sur la colonne de droite, vous vous souvenez, et les politiques de diffusion régionale, eh bien, cette concentration spatiale ne s'est pas réduite. Et on a, vous voyez, avec les rendements, des disparités très fortes entre les régions, l'Inde centrale étant vraiment à la traîne. Alors la révolution verte ne doit pas être accusée d'avoir créé ces inégalités, elles existaient déjà avant. Mais ben, il n'a fait que les confirmer. Hein. Ce n'était que les régions qui déjà possédaient l'irrigation, qui avaient déjà une certaine assise en termes de paysanat aisé, qui ont pu prendre le train de la révolution verte les premières. Donc, maintien, sinon accroissement des inégalités régionales, mais aussi sociales. Alors voilà, par exemple, une image un peu pub du Punjab, donc région en pointe avec une mécanisation non négligeable hein, de la récolte. Un particularisme aussi, la religion sikh, le paysan sikh dans toute sa splendeur, si je puis dire. Et le contraste est évidemment net avec quelques centaines de kilomètres plus au sud-est, le Jharkhand, état tribal, avec ici, vous voyez, la moisson du colza moutarde qui bat son plein. Une pauvre femme qui ne récolte en fait que de l'herbe pour ses chèvres. Donc là, ici, on est dans un milieu beaucoup plus difficile, à la fois économiquement, à la fois naturellement, et puis aussi culturellement, puisque ce sont des tribus, comme disent les Indiens, donc des groupes sociaux qui sont vraiment marginaux à tout point de vue, culturellement et politiquement. Donc tous les handicaps, si vous voulez, s'ajoutent. Handicaps agricoles, économiques, sociaux, politiques, etc. Pensez donc à cette femme, elle n'a même pas de juste au corps sous son sari, hein. C'est dire comme ces gens sont des sous-hommes. À côté de cela, hein, eh bien, vous avez dans les zones irriguées, alors par canal, mais où en plus se sont parfois ajoutés des forages privés, eh bien, une grande prospérité. Voilà, en pleine saison sèche, eh bien, quelqu'un qui prépare sa rizière au fond de la canne à sucre, et la canne à sucre, ça a besoin d'un an pour pousser, hein, donc il faut de l'irrigation qui puisse lui permettre de faire passer la saison sèche. Vous voyez donc le vert est extrêmement présent, deux cultures par an de riz. C'est une grande prospérité pour tous ceux qui peuvent avoir 2-3 hectares. Enfin, prospérité, c'est peut-être un grand mot, mais avec 4 hectares, vous avez un tracteur, avec 2 hectares, vous avez une télévision peut-être en couleur. Là, il y a une sécurité alimentaire. Alors, a fortiori pour cette famille hein, qui possède 10 hectares irrigués, c'était entre parenthèses chez ces gens-là que j'habitais pendant ma thèse, si vous voulez tout savoir. Et en plus, là, le monsieur à droite, il est professeur de collège. donc il a un salaire qui lui permet de réinvestir dans l'agriculture. Bon, là j'avais une diapo sur les castes, je passe, mais vous imaginez bien que les castes, une particularité sociale de l'Inde, eh bien, ont tendance à en rajouter dans la hiérarchie sociale, si je puis dire. D'autant que bien souvent, si vous êtes d'une basse caste, notamment si vous êtes intouchable, eh bien, vous correspondez souvent à une basse classe sociale. Il y a une corrélation plus ou moins nette entre caste et classe. Donc là aussi, il y a le cumul des handicaps, cumul économique, mais aussi cumul socio-religieux. Donc, qu'a pu faire l'État pour essayer de limiter ces inégalités sociales ? Eh bien, il y en a des programmes de développement, des programmes d'aide sociale. Il y en a de considérables, mais la plupart sont tous très bureaucratiques, mal fichus conceptuellement et surtout mal réalisés, tout simplement parce que là aussi, vous avez un substrat social fondamentalement inégalitaire. Et donc, c'est la cautère sur la jambe de bois. Vous pouvez avoir très bien un programme très bien ficelé, mais qui est appliqué dans un milieu très hiérarchisé, avec beaucoup de corruption de l'administration, avec des grands propriétaires, grands propriétaires de 6 ou 7 hectares qui vont pressurer les petits paysans. Eh bien, à chaque fois, ce programme de développement va donner lieu souvent à l'accroissement, pas à chaque fois, mais souvent l'accroissement de ces inégalités parce que les ressources vont être détournées par les élites rurales. Alors, depuis 2 ans, il y a un grand programme qui garantit 100 jours de travail par an dans des chantiers publics à toute famille pauvre, qui a l'air de fonctionner en termes de milliards de journées de travail créées chaque année. Mais les résultats, évidemment, sont un peu décevant, comme toujours. Ici, là, c'est la construction d'un canal. Il y a aussi d'autres programmes plus anecdotiques, comme ici, l'élevage de vers à soie. Là, le paysan est en train de récolter des cocons de vers à soie. Bon, timide essai de diversification économique de ces agriculteurs. Résultat, eh bien, les villages, les communes sans irrigation et les paysans sans puits doivent partir. Ils ne partent pas tant que cela pour la ville. L'exode rural n'explique que pour une toute petite partie, que pour 1/5 la croissance urbaine en Inde. C'est plutôt la fécondité des citadins qui explique la grande taille des mégapoles. Ces ruraux, ils partent surtout pour la campagne. Vers d'autres communes qui, elles, sont irriguées. Donc là, il y a un transfert de population des zones défavorisées vers les campagnes irriguées, les campagnes de la Révolution verte, notamment le Punjab ou ce Karnataka irrigué qu'on a vu. Et donc là, vous voyez, vous avez une immigrée qui est en train de couper la canne à sucre et qui a un statut social comme tout immigré dans le monde, que vous pouvez imaginer. Bon, je passe là-dessus. Et le résultat, là je fais de la pub pour mon livre L'Union indienne, parce que vous avez la même carte dans le livre, mais elle est en noir et blanc, et je n'ai pas le temps d'expliquer. Mais le résultat, c'est qu'on a une typologie des campagnes, alors qui est certes très simplifiée là, sur cette carte, mais qui oppose toujours, vous voyez, ce que j'appelle le ventre creux de l'Inde, c'est cette grande Inde centrale, au bastion de la Révolution verte, donc le Punjab et les environs. Et puis, en plus de cela, vous avez quelques zones périphériques relativement développées, notamment sur les littoraux. Vous avez un petit peu les zones périurbaines, mais pas tant que cela. Ce qui, donc, sans sous-estimer les changements, qui sont quand même très visibles, il ne faut pas exagérer, mais sans sous-estimer les changements, laisse à penser que les campagnes sont loin d'être dans la partie émergente de ce pays émergent qu'est l'Inde. Je compare toujours aux icebergs, les pays émergents. Vous avez 10% de l'iceberg qui est au-dessus de l'eau et vous avez 90% en dessous. Eh bien, les campagnes indiennes sont pour la plupart sous le niveau de l'eau. Voilà. Alors, pour mon dernier quart d'heure, je voudrais parler d'une des spécificités de l'Inde et ce sur quoi j'ai le plus travaillé il y a quelques années, ce qu'on peut appeler le système public alimentaire. Et ça, c'est très important parce que c'est bien joli de dire aux paysans, investissez, choisissez la révolution verte, travaillez plus pour gagner plus, etc., etc. Mais s'ils n'ont pas de garantie de vendre à de bons prix leur surplus, ben, ils ne vont pas travailler plus. Ils ne vont pas acheter d'engrais chimiques, ils ne vont pas irriguer. D'où le rôle de l'État, non seulement pour subventionner les intrants, l'Inde l'a fait, l'Inde continue de le faire, mais surtout, comme pour la politique agricole commune, de garantir des débouchés à des prix intéressants. Alors ça peut se schématiser par ce croquis qui vous montre la vision idéale, si le système fonctionnait, de celui-ci. Alors ça, vous l'avez dans mon livre qui s'appelle Un milliard à nourrir, chez Belin et en vente dans toutes les bonnes pharmacies. Mais vous l'avez aussi dans le dernier livre de Sylvie Brunel, pas celui où elle dévoile sa vie privée, mais celui chez Larousse qui s'appelle Nourrir la planète, je crois, et où elle a eu la gentillesse de reprendre mon schéma. Donc, en très gros, hein, vous avez là les cercles verts et rouges qui vous montrent le système de péréquation spatiale. L'État achète des grains dans les régions à surplus pour soutenir les cours, pour empêcher que les cours s'effondrent, pour garder des incitations à produire pour les agriculteurs. Et il les achète et ça constitue des stocks. C'est ce que vous avez la flèche de gauche qui s'appelle le procurement en anglais, la façon dont l'État se procure les grains pour nourrir les stocks de sécurité nationale. Et puis ensuite, ça redescend vers les régions déficitaires en rouge par le système qu'on appelle Public Distribution System, PDS en anglais, système de distribution publique. On va voir ce que c'est tout à l'heure. Et puis j'ai voulu compliquer ça avec le volet social, hein. Vous voyez que ça part des gros agriculteurs, donc le sommet de la pyramide sociale, un des sommets de la pyramide sociale, et puis ça arrive vers les petits paysans qui ne sont pas vendeurs nets de produits agricoles, hein, qui sont acheteurs nets, qui dépendent du marché pour se nourrir, qui n'ont pas assez de terres pour s'alimenter, et puis bien sûr les citadins. Donc là, vous voyez que c'est extrêmement ambitieux, parce que c'est un système qui a à la fois une vocation productiviste, nourrir la révolution verte, nourrir le processus d'intensification agricole, et puis aussi une vocation sociale, parce que ce PDS, il va vendre progressivement et de plus en plus avec les surplus agricoles, les surplus céréaliers du moins, il va vendre à des prix subventionnés, notamment pour les populations les plus pauvres. C'est une machinerie dans tous les sens du terme. Je dirais que c'est une grosse machine, parce que l'Inde est un grand pays, hein, pas très grand, hein, c'est 3 fois plus petit que la Chine, mais c'est quand même 6 fois plus grand que la France. Et donc, vous voyez le système là qui est transporté pour le blé et le riz au moins, transporté par ce qu'on appelle la Food Corporation of India, la Corporation alimentaire de l'Inde, qui transporte par train, par camion, les grains depuis notamment le Punjab jusque dans tout le reste de l'Inde. Et vous voyez là une photo prise sur le site internet de la FCI. Vous voyez que même à dos de chèvre, eh bien, on transporte les grains vers les plus nécessiteux dans l'Himalaya. Dans le cas du Tamil Nadu, au sud, eh bien, près du delta de la Cauvery, chaque année, le ministère, alors ce n'est pas le ministère de New Delhi, hein, c'est le ministère de l'État du Tamil Nadu, construit des huttes. Comme ici, où l'on procède à la pesée du grain, les agriculteurs sont libres, le plus souvent, de vendre leurs grains à l'État ou sur le marché libre. Dans les années 60-70, c'était souvent des ventes forcées. Maintenant, ce sont des ventes libres. Ensuite, on transporte les grains par camion, hein, ce sont des camions privés, c'est-à-dire que le secteur privé est toujours très important, comme acteur au sein même de la machinerie d'État. Ces camions apportent le grain dans les entrepôts publics du Tamil Nadu, où ils vont être stockés Là, je triche, c'est un entrepôt à côté du Punjab. Mais les années de trop-plein, vous voyez que là aussi, ce sont des proies faciles pour les rôdeurs et les rongeurs, je dirais, sans parler de la pluie. Et vous avez donc des circuits extrêmement importants, hein, en moyenne c'est 1500 km, que doivent parcourir les grains. Alors là, d'une part, ce n'est pas un train de grains, mais c'est un train de paille. Mais je vous promets, quand j'ai fait la photo, là, il y avait ce que vous voyez à gauche, là, il y avait autant de wagons vers la droite. Hein. C'était des trains, ce sont des trains à l'américaine, si je puis dire. Et puis en aval, eh bien, les wagons sont débarqués dans des camions. Les camions sont débarqués vers des boutiques d'alimentation, qu'on appelle les boutiques de rationnement, où chacun peut aller une fois qu'il a acquis un petit livret familial dans ce bureau qui est la maison des fous dans Astérix, hein, c'est-à-dire c'est une bureaucratie effrayante où il y a énormément de corruption. Et pour obtenir ce livret d'alimentation, qui est complètement gratuit, que tous les Indiens sont normalement censés avoir, eh bien, il faut payer à Bombay des milliers de roupies auprès de fonctionnaires ou d'intermédiaires corrompus. Donc voilà ici, là, le monsieur à droite, c'est le client. Il a obtenu son livret qu'il a donné au gérant de la boutique. Et ce gérant est en train d'inscrire sur le livret la quantité de grains, de riz, d'huile, de sucre, parfois de charbon, qu'il vend au client. Alors c'est là que se font beaucoup de scandales, hein, parce que eh bien, souvent dans le blé, il y a un petit peu de sable. Dans la farine, il y a un petit peu de plâtre. Il y a une énorme corruption. Et parfois aussi, surtout quand c'est une femme intouchable, analphabète, qui est la cliente, eh bien, le gérant va marquer qu'il a vendu 20 kilos, alors qu'en fait, il n'en a vendu que 15. Et les 5 restants, il les vend sur le marché libre. Et il encaisse donc le montant de la subvention. C'est su de tout le monde et j'ai été voir le syndicat national des vendeurs de ces boutiques d'alimentation et le secrétaire, là, il faut dire, on n'était que tous les deux, et il m'a dit, notre système est fondé sur le black market. Et il m'a dit, nous arnaquons les gens parce que nous sommes arnaqués. Il m'a dit, nous arnaquons les gens. Et c'est vrai qu'ils sont arnaqués parce que d'une part, la marge bénéficiaire est fixée par l'État de façon extrêmement minime. Et puis en plus, quand le sac de grains arrive du camion, le sac de 70 kilos, en général, il est rempli à 66 kilos. Alors si vous allez voir celui qui a rempli le sac, il va dire, oui, c'est vrai, j'ai arnaqué, mais le wagon qui m'est arrivé, il était rempli seulement à 90%. Et vous allez voir le chef de gare, il vous dira la même chose. Il y a un camion qui devait me livrer et qui a disparu dans la nature. Il y a des camions qui disparaissent. On estime qu'il y a en gros 30% des grains qui disparaissent dans le circuit. Et pour l'huile et le sucre, ça peut être 40-50%. Et ça, ce sont des estimations officielles du Parlement. Donc c'est un circuit qui subventionne beaucoup de monde, hein, mais pas forcément les plus nécessiteux. Et là, je suis un peu vache de montrer ce livret d'alimentation parce qu'il y en a qui sont en meilleur état, mais je trouve que ça symbolise pas mal l'état du PDS. Alors même qu'à Hyderabad, c'est là que peut-être que ça fonctionne le mieux de l'Inde. Il y a beaucoup d'actions pour essayer d'améliorer ce système. Ça peut venir de la société civile, que j'ai souvent tendance à sous-estimer en Inde, parce que je pense qu'elle n'est pas très active par rapport à d'autres pays du Sud. Mais voilà ici, par exemple, une femme, hein, qui est présidente d'un club de femmes et qui montre fièrement une brochure où elle est montrée lors d'une manifestation pour exiger l'honnêteté de la boutique d'alimentation. Alors cela dit, ceux qui ont de bons yeux et qui connaissent l'Inde reconnaissent sur la brochure le drapeau du Parti du Congrès, reconnaissent Indira Gandhi, c'est-à-dire que c'est une société civile certes, mais c'est sous l'emprise des partis politiques. En Inde, ou moins en ville, tout est politique et les plus pauvres en général doivent se réfugier, il y a des exceptions, mais doivent se réfugier sous la protection d'un parti politique, pour le meilleur et pour le pire. Et donc là, je passe sur les cartes, donnant les résultats des économies, mais en gros, ce sont des économies en moyenne 5% du budget total de consommation, hein, c'est-à-dire pas seulement alimentaire, mais toutes les dépenses de consommation grâce au PDS. 5%, c'est vraiment très faible, mais 5%, c'est vrai que ça peut servir juste de petite bouée de sauvetage pour certains ménages. Une bouée très dégonflée, mais une bouée quand même. Les libéraux attaquent le système parce que, vous voyez, bah, ça coûte cher. Les gens de gauche, entre guillemets, attaquent le système pour toutes les raisons que je vous ai évoquées. Mais d'un autre côté, ça coûte à peu près 1% du PIB indien. Bon, 1% peut avoir une politique à la fois productiviste et sociale. Je pense que finalement, c'est pas si mal payé. Il reste que, vous voyez, bah, des gens d'un bidonville comme ici, là, ce sont des gens du chantier qui construisent les maisons à l'arrière. Bon, ces gens-là n'ont sans doute pas accès aux boutiques parce qu'ils sont migrants. Ils ont peut-être une carte de rationnement dans leur village, mais pour s'approvisionner dans leur village, ils n'ont pas accès à la boutique urbaine du quartier. Donc globalement, vous avez une bonne partie des habitants des bidonvilles qui, par définition, hein, parce que leur habitat est plus ou moins illégal, n'ont guère accès au PDS. Et donc, bah, les caricaturistes sont ravis, hein, parce que vous voyez qu'ils peuvent montrer comment les stocks de grains de la FCI pourrissent ou bien sont exportés, mais subventionnés vers l'étranger, alors que l'Inde est en situation d'insécurité alimentaire encore. Les grandes années, hein, l'Inde exporte avec des subventions. Et pourquoi? Bah, pour nourrir le bétail européen, hein, ou bien nourrir les Sénégalais. C'est dire. Je dis les Sénégalais parce que c'est vrai qu'une année, seul le Sénégal a accepté le blé indien qui était trop pourri pour être exporté ailleurs. C'est dire. C'est dire les besoins du Sénégal, on va dire. Et puis je termine sur quelque chose qui est plus personnel et qui sort du sujet peut-être, et qui est peut-être assez audacieux, mais c'est une hypothèse. Pourquoi ce système qui n'est plus à la mode du tout, du moins qui n'était plus à la mode jusqu'à la flambée des prix alimentaires d'il y a 2 ans, pourquoi ce système perdure malgré la libéralisation économique de l'Inde? Pourquoi même le BJP, le Parti nationaliste hindou, disons la droite hindoue, qui était très libérale quand elle est arrivée au pouvoir, qui est resté 6 ans au pouvoir à New Delhi, n'a pas aboli le système? Eh bien, je pense qu'il y a plusieurs raisons, notamment le fait qu'il y a tellement de gens qui ont intérêt à ce système qu'il perdure. Mais je pense aussi que, et là c'est le géographe qui parle, ça correspond aussi à une représentation de l'espace typiquement indienne, voire hindoue, une représentation du territoire national. Regardez ici comment la droite hindoue a organisé des processions qui quadrillaient tout le territoire sous forme de rayons. Ceux qui connaissent l'Inde verraient la roue du Dharma. On pourrait voir même aussi une swastika éventuellement. Regardez aussi comment le premier ministre de la droite hindoue, pas le premier ministre, un leader de la droite hindoue, Advani, a fait une autre procession à travers toute l'Inde. À chaque fois, c'est le rayonnement, l'idée de lier les points cardinaux les uns aux autres, du nord au sud et d'est en ouest. Et le discours habituel, hein, de l'Indien pour décrire son territoire national, c'est souvent, il parle du Cachemire à Kanyakumari, hein, c'est-à-dire du nord au sud, de même que nous, on dirait Paris et la province. Nous, on oppose Paris et la province. Les Indiens, eux, ils pensent leur territoire en termes de points cardinaux à relier par un cercle ou par des rayons. C'est aussi cette divinité hindoue, hein, qui est très populaire chez les extrémistes hindous, Bharatmata, c'est-à-dire la mère Inde, qui est toujours représentée avec une carte de l'Inde derrière elle, qui aussi me fait penser que dans l'hindouisme, il y a cette représentation du territoire qui est extrêmement prégnante. Et il n'y a pas loin, du coup, à penser que, eh bien, des flux de pèlerins qui convergent à Bénarès et qui reviennent, des flux de grains, des flux des processions politiques, et puis il y a plein d'autres exemples que je pourrais donner, notamment les autoroutes qui récemment ont été construites en forme de croix, hein, qui relient nulle part à nulle part, mais de façon extrêmement volontariste. Donc c'est assez facile de penser que tout ça est lié et que le PDS, dans tous ces flux qu'on a vus là sur les cartes de circulation des grains, eh bien, n'est qu'un exemple de plus hein, du souci d'intégrer tout un territoire par une circulation qui peut être de pèlerins ou de marchandises. Voilà. Merci.